RFI Midi. Anne Contner.
On en parlait il y a quelques minutes. La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision inédite. Elle a condamné la Suisse pour inaction climatique à la grande satisfaction des requérantes et des militants pour l'environnement et le climat qui avaient fait le déplacement pour l'occasion.
Ce n'est que le début des contentieux climatiques. Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leur gouvernement devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. Et en aucun cas, nous ne devons reculer. Nous devons nous battre encore et encore, parce que c'est que le début. Dans une situation d'urgence climatique, tout est en jeu.
La militante Greta Thunberg devant le siège de la Cour européenne des droits de l'homme, Cour qui a donc rendu une décision historique dont nous allons parler avec Stéphanie Caligara, juriste à l'ONG Global Legal Action Network. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Mais merci d'être avec nous. Est-ce que selon vous, Greta Thunberg a raison, ce n'est qu'un début ?
Absolument, elle a tout à fait raison, surtout que la décision historique contre la Suisse aujourd'hui a posé des principes qui sont applicables à tous les États membres du Conseil de l'Europe. Donc on s'attend à les voir utilisés et mobilisés par les différentes organisations de la société civile et à voir d'autres contentieux climatiques émerger sur la base de cette décision historique dans toutes ces juridictions différentes.
Oui, parce qu'en fait, d'autres instances avaient déjà été saisies sur la question de l'inaction climatique, mais là, et il faut le préciser, ce jugement de la Cour européenne des droits de l'homme est juridiquement contraignant. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Suisse ?
Alors, pour la Suisse, ça veut dire que les obligations qui ont été mises en exergue et développées dans ce jugement vont devoir être mises en œuvre au niveau domestique, donc interne en Suisse. Ça veut dire notamment revoir les objectifs climatiques et revoir les ambitions des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire changer les politiques climatiques et revoir plein d'éléments qui jusqu'à présent n'avaient pas été suffisamment ambitieux par rapport à ce que la Suisse devrait faire pour respecter ses obligations d'un point de vue de la Convention européenne des droits de l'homme et sous l'égide du droit du changement climatique.
Et il existe des leviers au cas où la Suisse n'atteindrait toujours pas ses objectifs ?
Alors, dans un premier temps, la décision de la Cour est exécutoire et contraignante. Donc, si jamais la Suisse ne venait pas la respecter ou à la respecter de façon insuffisante, il y a le mécanisme prévu par le Conseil de l'Europe, qui est le Conseil des ministres, qui va veiller à ce que cette décision soit exécutée. Et bien sûr, ensuite, au niveau domestique, les différentes organisations pourraient ensuite intenter des recours en Suisse pour justement forcer l'État à mettre en œuvre les obligations que la Cour européenne des droits de l'homme a aujourd'hui mis en avant dans cette décision.
Donc là, ça concerne la Suisse. La Cour, tout à l'heure, a écarté deux requêtes qu'elle a jugées irrecevables. Celle de l'ancien maire écologiste de Grande-Synthe, dans le nord de la France, qui est actuellement eurodéputé. Et puis la requête de jeunes Portugais qui, eux, s'étaient mobilisés après des incendies majeurs dans leur pays en 2017. Vous l'avez évoqué rapidement. Il faut s'attendre donc à ce que cette décision fasse jurisprudence ?
Absolument. La décision suisse est incontestablement historique et elle va devoir être mise en œuvre. Et je pense même que beaucoup d'États du Conseil de l'Europe vont revoir leur politique en vue de ces décisions. Parce qu'en fait, les principes que la Cour a énoncés s'appliquent bien sûr à la Suisse et sont contraignants pour la Suisse, mais également valent pour tous les États membres de la Convention européenne des droits de l'homme.
Donc avec un effet où ils anticiperaient de futures procédures de ce type ?
Exact, vous avez tout à fait raison. Ce qui est possible que, bien sûr, les États ne veuillent pas faire leur part d'effort ou le fassent, mais pas de façon suffisante. Mais on peut imaginer qu'afin d'éviter des contentieux à venir, les États puissent vouloir prendre les devants et commencer dès à présent à mettre en place les changements nécessaires.
Il y a beaucoup d'affaires judiciaires en cours en ce moment. Il y en a de plus en plus. Elles ont beaucoup augmenté ces dernières années. Selon le Sabine Center, il y avait plus de 2500 dossiers dans le monde en décembre dernier, dont plus de 1600 aux États-Unis. C'est devenu une autre forme de campagne pour les militants ?
pense que ce n'est pas seulement une forme de campagne. Je pense qu'il y a un réel sens d'urgence et un réel sentiment d'impuissance et d'insatisfaction par rapport aux mesures que les gouvernements ont actuellement mis en œuvre et qui sont clairement insuffisantes au vu non seulement du réchauffement climatique qui progresse à vitesse grand V, des événements catastrophiques. De plus en plus de gens voient les juridictions et les cours dans le monde entier comme le seul moyen de pouvoir faire en sorte que les gouvernements prennent vraiment les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Donc il y a bien sûr cet aspect campagne, mais il y a vraiment un aspect mobilisation de la personne lambda qui veut voir quelque chose changer et qui veut garder espoir en fait que son futur sera tout à fait possible.
Donc beaucoup de procédures vues comme un dernier recours face à des entreprises polluantes ou alors des États. Sur toutes ces procédures, il y en a quand même assez peu qui aboutissent. Pourquoi selon vous ?
Alors souvent, il y a justement... Il y a plusieurs points qui constituent des obstacles. Par exemple, il y a d'une part des législations qui ne sont encore pas adaptées aux questions juridiques qui sont posées par les défis du changement climatique. Il y a bien sûr aussi des juridictions et des cours qui sont moins équipées ou moins n'ont pas l'expertise nécessaire ou alors pas forcément la volonté de tenir tête quelque part à l'exécutif ou à des grosses multinationales. Et puis après, bien sûr, il y a toujours des questions de quels sont les faits, les éléments de preuve, est-ce que cela est suffisamment convaincant, est-ce que les arguments ont été plaidés correctement. Donc il y a plusieurs facteurs à chaque fois pris en compte, c'est très spécifique à chaque dossier.
Alors, on observe quand même que tous ces dossiers, notamment ceux que je citais, les 2500 qui sont recensés dans le monde, se trouvent surtout au sein des grandes puissances et de pays occidentaux. Est-ce qu'on observe la même tendance dans des pays en développement, ailleurs dans le monde par exemple ?
Alors, on l'observe, mais dans une moindre mesure. Et en fait, la raison qui explique cela, c'est que la plupart, d'une part, des sociétés qui sont responsables d'un grand nombre d'émissions sont incorporées et domiciliées dans des pays occidentaux et du Nord, comme on dit. Et aussi que l'appareil juridique, les règles qui existent déjà, sont peut-être plus élaborées dans des pays comme ceux de l'Union européenne, où, par exemple, les questions climatiques sont beaucoup plus présentes sur l'agenda politique, ce qui n'est pas forcément le cas de pays en voie de développement qui, eux, par exemple, au titre de l'équité, clament leur droit à pouvoir continuer d'émettre certaines quantités d'émissions puisqu'ils n'ont pas encore atteint le même niveau de développement industriel. Donc il y a plusieurs éléments en jeu, mais souvent, voilà, ce sera les trois éléments principaux, je dirais.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Stéphanie Caligara. Je rappelle que vous êtes juriste à l'ONG Global Legal Action Network.